Voilà, donc c'est moi qui donne le message aujourd'hui. Et en fait, il y a deux ou trois semaines après notre retour d'Israël, j'étais assise à ma place habituelle. Place du milieu, deuxième à gauche, voilà. Très souvent, c'est là, presque derrière Odette. Voilà. J'étais à ma place, en train d'écouter une prédication, un petit oups. Et puis j'ai entendu, alors bizarre parce que ça n'avait rien à faire avec le message qui était donné par Jean-Luc, j'ai entendu Gilgal et circoncision. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, ça a cheminé dans mes pensées, et en même temps, j'avais à l'esprit une personne de l'Assemblée, et je me dis, c'est peut-être pour cette personne. Mais bon, pas de conviction particulière, pas de certitude. Alors j'ai dit, bon, je garde ça pour moi, j'en parle à Jean-Luc, parce que on se soumet les uns aux autres, donc je lui soumets ça. Et il dit, ben oui, c'est important, je sens que c'est important, mais bon. Alors, j'ai creusé le sujet, et voilà ma prédication. Alors, de retour d'Israël, on avait dans la tête beaucoup de noms de cités bibliques. On avait visité Jaffa, on avait entendu parler de Nazareth, de Bethléem, on est allé sur le lac de Tibériade, on a vu Jéricho, on est allé prier sur les frontières du Golan, Métula, Banias, on est allé au Mont Carmel, à Massada, etc. On a entendu parler des documents des grottes de Qumran, on a visité Jérusalem, le souk et tout le reste. Et puis en même temps, ce nom Gilgal, ben, dès le premier jour, il m'avait parlé, parce qu'on était allé dans une communauté le soir. Chaque soir, on avait le témoignage de pierres vivantes en Israël. Et le premier soir, on était allé dans une communauté qui s'appelle les Trompettes du Salut pour Israël, et avec Jacob Damkani. Et là, on était à l'hôtel Gilgal. Et ils nous avaient un peu parlé comment le Seigneur les avait conduits à être dans cet endroit, sa conversion et après l'œuvre d'évangélisation parmi les Juifs, et comment ça avait cheminé. Donc je voulais vous apporter deux cartes, et puis j'ai oublié ma clé USB. Donc simplement vous dire que un archéologue chrétien aurait découvert la Gilgal biblique à 3 km à l'ouest de Jéricho. Donc, frontière du Jourdain, Jéricho est donc entre les deux, hein, pour vous donner une petite idée. Voilà. À votre avis, Gilgal, vous en avez entendu parler combien de fois dans l'Ancien Testament? Petite idée? Ouais? On va parler de Josué? En fait, il y a 39 fois la désignation de Gilgal, avec bien sûr Josué, mais aussi après, c'est de là que Samuel va partir, qu'il va oindre Saül, et à chaque fois il reviendra pour élever un autel à l'Éternel. Alors nous, on va se dresser dans le décor de plus de Josué, et rappeler que Moïse, cet homme de foi, avait amené à bout de bras presque le peuple d'Israël aux portes du pays promis, aux portes du pays de Canaan. Après 40 années d'errance, Égypte, 40 années d'errance, porte de Canaan, et Dieu dit à Moïse, tu n'y entreras pas. Tu n'y entreras pas parce que tu as douté. Là, on le retrouve dans Nombre 20. Moïse a douté, et Moïse et Aaron ont surtout, en frappant deux fois le rocher au lieu d'une fois, ils se sont rendus gloire à eux-mêmes plutôt qu'à Dieu. Donc, on retrouve dans Nombre 20 les versets 8 à 12. Et en fait, pour moi, Moïse et Aaron ont manqué de foi et donc ont tapé deux fois sur le rocher. Et surtout, et la gloire n'est pas pleinement revenue à Dieu. Et dans Deutéronome 32, on voit Dieu qui parle et qui dit « Aaron et toi, vous avez commis une faute grave envers moi, en présence des Israélites, lors de l'affaire de l'eau de Meriba. À cette occasion, vous n'avez pas manifesté au milieu du peuple que j'étais le vrai Dieu. » En s'octroyant la gloire pour eux-mêmes, plutôt que de la rendre pleinement à Dieu, ils avaient réduit quelque chose qui était merveilleux aux yeux de l'Éternel. Parce que ce rocher sur lequel ils ont tapé, et duquel, je le fais exprès, Jacques, et duquel est sortie l'eau, ça nous rappelle que c'est Jésus notre rocher. Et que l'eau, ben, Jésus nous dit que c'est lui qui nous donnera l'eau de la vie. C'est lui qui est notre eau et notre espérance, l'eau de notre salut. Il dit dans Jean 4, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et là, je voyais notre besoin de rester humble devant l'Éternel, de rester humble devant notre Dieu. Nous sommes les serviteurs et il est Dieu. En revenant à notre texte, on peut noter que Moïse va accepter la punition de l'Éternel. Il ne va pas se rebeller, il ne va pas criser, il sait qu'il a failli. Et donc, il sait que c'est quelqu'un d'autre qui va faire passer le Jourdain et faire prendre possession du pays promis. Et ce quelqu'un, ça va être Josué. Josué, c'est le fils de Noun, un membre de la famille de la tribu d'Éphraïm. Son nom signifie « Dieu sauve ». C'est une promesse merveilleuse et qui est prophétique car elle annonce par avance toute l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu sauve. Josué est donc né en Égypte à l'époque de l'esclavage des Hébreux. Il va être le témoin de la sortie d'Égypte des Israélites sous la direction de Moïse, avec la traversée de la mer Rouge, puis il va se distinguer en tant que commandant militaire. Vous rappelez cet événement quand Moïse est sur la montagne et qu'il tient les bras levés et que Our et Aaron, au bout d'un moment, vont venir tenir ses bras parce que quand les bras baissent, ben, les gens en bas qui sont en train de combattre perdent de la victoire. Et dans ces gens en bas, il y a le chef militaire Josué. Et avant de mourir sur la rive orientale du Jourdain, Moïse va désigner Josué comme son successeur. Et pour moi, c'est important, cette passation de pouvoir qui va avoir lieu entre Moïse et son serviteur Josué. Il est dit dans Deutéronome 34, « Josué, fils de Noun, était rempli d'un esprit de sagesse parce que Moïse avait posé les mains sur lui. » Parce que Moïse avait posé les mains sur lui. C'est à lui que les Israélites obéirent dès lors en suivant les ordres que le Seigneur leur avait transmis. Parfois, je me demande si dans nos églises du XXIe siècle, on est assez attentif à cette passation de pouvoir des plus anciens aux plus jeunes. par la prière et par l'imposition des mains. J'ai envie de vous dire que à Source de Vie, dans cet endroit 2 qui est le nôtre actuellement, on pense au changement de fonction de Jean-Luc et Annette dans les prochains mois, à leur temps sabbatique et après à leur désir d'être dans de nouveaux rôles que ceux qu'ils ont eus jusqu'à présent. Et on se dit, mais, et en particulier au conseil d'église, on est 6 personnes actuellement et on est dans une fourchette d'âge entre 50 et 60 ans et plus, donc on n'est plus des tout jeunes, hein. Il faut réaliser qu'on aurait besoin d'un petit renouvellement, d'un coup de pouce des plus jeunes. Et là, régulièrement, on prie, je pense que c'est sur le cœur de Jean-Luc, il prie, mais Seigneur, une nouvelle génération, une nouvelle génération de serviteurs, de responsables pour les divers domaines de l'œuvre de Dieu. Que ce soit pour les choses pratico-pratiques de la vie d'une église. Ça va être la sono, l'administratif, la compta, l'enregistrement des messages, préparation des agapes, etc. Il y en a qui le font depuis des années et des années. Et puis, il y a besoin de sang neuf. Et puis, il y a aussi tout le domaine spirituel avec l'enseignement des enfants. Et moi, je me réjouis de ce qui se met en place actuellement. La louange, la prédication, l'évangélisation, les cours alpha, etc. Voilà, tout ça. L'œcuménisme, toutes ces choses-là, ben, il faut qu'il y ait une relève, que progressivement, alors on n'est pas nombreux ce matin et on se dit, ben, où elle est la relève? Ben, elle est peut-être déjà dans nos rangs et puis il faut l'appeler sur les chaises vides, hein, la relève, mais pour moi elle est importante, elle est nécessaire cette relève. Seigneur, s'il te plaît, fais se lever des Josué, des Caleb, des David, mais aussi des Esther, des Déborah, des Marie, des Marie-Madeleine. Et on continue. Autant chez le masculin que le féminin, le service de Dieu a besoin de serviteurs. C'est dans son face-à-face avec Dieu, avec l'Éternel, que Moïse va recevoir le nom de Josué. Pour moi, c'est important. L'onction de Moïse, l'onction qui a fait qu'il conduisait le peuple, qu'il a été amené à faire tous les miracles devant le Pharaon, ce qui a amené le peuple à pouvoir partir, à pouvoir être libéré. Puis après, il y a le rocher où malheureusement il y a eu quelque chose de pas juste qui a été vécu. Puis il y a toute la rébellion du peuple qui a fait que il fallait qu'il y ait une nouvelle génération pour entrer dans le pays promis. Et donc, cette passation du pouvoir, il fallait que Josué reçoive vraiment l'onction pour pouvoir prendre possession d'eux. Et l'Éternel va parler maintenant à Josué. Et il lui dit, mon serviteur Moïse est mort. Fini. Terminé. Maintenant, c'est à toi de traverser le Jourdain avec tout le peuple pour pénétrer dans le pays de la promesse. Et comme je l'ai promis à Moïse, il l'a vu de loin, Moïse, hein, ce pays promis, comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez le pied. Vous entendez? Vous entendez la promesse? Je vous donne, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez les pieds. Je m'étonne que Robert n'ait pas crié un grand « Waouh ! Waouh ! » Je m'étonne qu'on ne soit pas en train de crier « Hourra, Seigneur !» Parce que cette promesse-là, elle est encore pour nous aujourd'hui. Elle est pour notre pays de France. Elle est pour la conversion dans nos familles. elle est pour nos voisins, pour nos collègues, pour notre église, pour nos jeunes. Je mettrai dans vos mains la propriété de tous les endroits où vous poserez les pieds. Tout ce que vous réclamerez à l'Éternel, vous pouvez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, comme c'est dit dans Hébreux 11. Et il poursuit l'Éternel en disant à Josué, « Toute ta vie, personne ne pourra te résister. » Personne ne pourra te résister, non pas à cause de ta propre force, non pas à cause de tes actes héroïques, non. Personne ne pourra te résister, car je serai avec toi. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te laisserai sans secours. Et toi, Josué, sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que j'ai transmise à Moïse. L'ordre de marche, l'ordre de route est clair, net et précis. Josué comprend qu'en s'appuyant sur Dieu dans tout ce qu'il va avoir à faire, le Seigneur sera fidèle. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le Gilgal et la circoncision dont elle nous a parlé au début ? Ben, j'y arrive, hein ? J'y arrive, parce que je pense qu'il faut voir ce qui s'est passé avant pour comprendre l'importance du Gilgal et de la circoncision. Pendant 40 années dans le désert, il n'y a pas eu de circoncision. Et les hommes étaient une nouvelle génération, les fils de ceux qui avaient péché en se rebellant dans le désert. Il fallait cette circoncision. Et Dieu nous demande aussi la circoncision de notre cœur, la purification, la sanctification, qui est un travail de tous les jours jusqu'à notre mort. Dieu demande cette circoncision de notre cœur. Et donc, au Gilgal, après avoir traversé le Jourdain, comme Moïse avait fait traverser la mer Rouge, hein, vous vous rappelez, poursuivi par les Égyptiens, mais là c'est bizarre, les ennemis ne sont pas derrière, en train de les poursuivre, ils sont devant. Et le Jourdain, c'est pas quelque chose à passer pour avoir les ennemis derrière, mais c'est pour aller les combattre devant. Et nous aussi, on a nos ennemis à combattre devant. Et je ne suis pas là à parler de nos territoires géographiques, parce qu'on n'a plus rien à combattre, on a assez combattu depuis des siècles, on a assez fait le bordel pendant des années, pardon pour le mot, mais je le pense très fort. On a vraiment vécu des batailles et des batailles, une fois à gauche, une fois à droite du Rhin, une fois la Belgique d'un côté, une fois l'Allemagne, et puis tout ce qu'on a fait en Algérie, tout ce qu'on a fait dans nos colonies. Donc c'est plus là où ça se passe, nos combats. Mais dans nos combats spirituels, avec l'ennemi de nos âmes et l'ennemi des âmes de ceux qu'on aime, on a un combat à mener. Et ce combat, il est devant nous. Et le pays promis, il est devant nous. Et je me dis, la circoncision, quand elle est faite à l'âge de 8 jours, comme c'est la coutume, avec nos petits scalpels bien aseptisés, ça ne dure pas longtemps, c'est rapide, c'est presque sans douleur. Mais là, tous ces jeunes gens, eh ben, Josué va demander... L'Éternel va demander à Josué de se faire des couteaux avec des pierres. Waouh ! Et de couper dans le vif. Et la circoncision, je peux vous dire qu'à ce moment-là, je pense qu'elle a dû faire mal. et il leur a fallu plusieurs jours pour guérir. Plusieurs jours où ils étaient dans un état de faiblesse important. C'était pas n'importe quoi de se retrouver dans cet état de faiblesse. Mais Dieu avait veillé. Il avait dit, il avait tellement découragé les gens autour, les peuples autour, qu'ils avaient craint de s'attaquer au peuple d'Israël. Alors que s'ils avaient vu l'état de faiblesse du peuple, ils en faisaient une bouchée. Donc Dieu l'a déjà veillé. Pendant la circoncision des hommes qui avaient traversé le Jourdain, Dieu veillait. Et pendant nos temps où Dieu circoncit nos cœurs, nos temps où on est en situation de fragilité, Dieu veille. Et je pense qu'on a tous des moments de fragilité dans nos vies, mais où Dieu veille. Il y a quelque chose, une promesse que je vais vous lire et qui est dans Josué 5, au verset 9. Et ça fait un rappel avec la circoncision. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé au-dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal. Et à un autre endroit, on parle de la colline de la circoncision. Et ce mot Gilgal, qui signifie rouler, ôter, est le même mot qui est employé dans le Nouveau Testament pour parler de la pierre qui est roulée du tombeau de Jésus. Et c'est la résurrection. Et avec cette circoncision du peuple d'Israël, il y a une résurrection. Il y a comme un signe, déjà 14 siècles plus tôt, de la résurrection qui va avoir lieu. Et de la résurrection dont nous allons pouvoir bénéficier maintenant. Donc Gilgal, ça va être un lieu de commémoration. Ils ont posé les 12 pierres qu'ils ont prises dans le Jourdain, comme Moïse avait posé les 12 pierres qu'ils avaient prises dans la mer Rouge. Donc, ils se remémorent. Gilgal, c'est un lieu de souvenance. Alors, c'est un mot que j'ai un peu... je ne sais pas s'il existe, mais il me parlait bien. Ce n'est pas seulement du souvenir. Mais souvenance, c'est quelque chose qui se poursuit. Je continue de me souvenir d'eux. Et donc, il y a d'une part ce lieu de souvenance, et puis il y a aussi la circoncision, et Pessah est à nouveau possible. Et ils vont après la circoncision, après la commémoration en ayant posé ces 12 pierres pour chacune des tribus du peuple d'Israël, ils vont faire Pessah. Et il va y avoir Pâques dans leur vie, comme il peut y avoir Pâques dans nos vies aujourd'hui. Ma question par rapport aujourd'hui à cette circoncision et à Gilgal, c'est de dire, est-ce qu'on a dans nos vies des moments, des lieux de commémoration? Bon, il y a les grandes stalles du 11 novembre, où on se remémore 14-18, etc. On a dans notre histoire des lieux de commémoration. Est-ce que dans nos vies, il y a ces lieux de commémoration de l'œuvre de Jésus, du passage de notre Jourdain? Et on a des Jourdains à passer pour pouvoir aller à la conquête de notre pays promis. Est-ce qu'on accepte la circoncision de notre cœur? Et ça peut durer toute notre vie. Est-ce qu'on accepte d'être purifié, d'être lavé profondément? Est-ce qu'il fait Pâques dans notre vie aujourd'hui? Est-ce que ça fait Pâques? Est-ce que ça résonne l'espérance pour nous, pour ceux que nous aimons, à cause de l'œuvre magnifique de Jésus à la croix. Il est le seul capable de nous libérer de l'ennemi de nos âmes. Je pense vraiment qu'on peut prendre un court temps de prière. Je n'ai pas de montre, l'horloge ne marche plus, mais simplement, on peut prendre... Il est quelle heure? Bon, c'est bien. Simplement quelques minutes pour dire Seigneur. Seigneur, où est mon Gilgal? Où est le lieu de ma circoncision de cœur? Où est ce lieu où j'ai passé mon Jourdain à pied sec? Où est ce pays promis? Quel est ce pays promis pour ma vie, pour mon Église, pour ma famille? Seigneur Jésus, je veux te louer parce que depuis le jardin d'Éden, tu savais qu'on ne pourrait pas se passer de toi. Au fil de l'histoire du peuple juif, tu t'es révélé. Comme le Tout-Puissant, comme le bon berger, comme le salut d'Israël. Puis tu as étendu ce salut au monde entier. Seigneur, viens faire ton œuvre dans mon cœur, dans nos cœurs. Viens établir ces Gilgal, ces lieux à partir desquels on peut partir à la conquête de notre pays promis. Je vous encourage à lire, si vous le désirez, chapitre de Deutéronome et les 5 premiers chapitres de Josué. C'est plein d'enseignements. Merci.